du jour.
Anne Souhaitemont.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans RFI Soir. En activant l'article 50, Theresa May n'a pas seulement enclenché la procédure de divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, elle donne aussi le coup d'envoi de la recomposition de toute l'Europe financière. Voici les premiers mots de l'éditorial de lundi, paru dans le journal économique Les Échos. Guillaume Maujean, l'auteur de l'article, poursuit en insistant, non, la City ne s'effondrera pas sous nos yeux une fois le Brexit lancé, mais oui, des financiers vont devoir déplacer des équipes vers le continent, car qui dit sortie de l'Union européenne dit perte du passeport européen, précieux sésame qui leur permet encore pour 2 ans a priori d'exercer leurs activités dans l'ensemble de l'Union européenne à partir du Royaume-Uni. La question, c'est l'ampleur de cet exil à venir, sa destination, ses délais aussi, on va en parler. Voilà bientôt 1 an qu'à Dublin, à Francfort, à Bruxelles, à Luxembourg, à Paris, même à Varsovie, on nourrit de grandes ambitions en France, entre autres, on s'est organisé, structuré en ce sens. La maire de la capitale déclarait 2 semaines après le référendum, en juillet, mon objectif est clair, je veux faire de Paris la première place financière européenne. Alors à noter, c'est peut-être un début, HSBC va déplacer 1 millier de ses emplois londoniens dans la capitale française. Alors finance, la place de Paris peut-elle remplacer la City? C'est notre sujet de ce soir. Bienvenue. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir 2 invités à mes côtés en studio. Alain Piton, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire général de Paris Europlace, qui est une organisation qui est chargée justement de convaincre les décideurs de la City de choisir Paris lorsqu'ils délocaliseront, s'ils délocalisent, une partie de leurs activités vers l'Union européenne. Et avec nous par téléphone, Olivier Pastré, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, professeur à Paris 8 et membre du Cercle des économistes. Alors Alain Piton, j'aimerais commencer avec vous. J'imagine que vous partez du constat que le Brexit, c'est la fin de la City.
Alors justement, non, ça ne sera pas la fin de la City.
Ah, vous êtes d'accord avec l'auteur de l'article alors?
Je suis effectivement d'accord avec lui. Peut-être pour commencer par 2-3 chiffres, on considère que les revenus financiers de la City, c'est à peu près 200 milliards de livres par an. Et sur cet ensemble, c'est à peu près 20% qui est concerné par la question, justement, comme vous l'évoquiez, du passeport des services financiers et de l'accès au marché unique européen. Donc vous voyez que c'est une part qui est importante, mais ce n'est pas du tout la totalité de l'activité britannique qui est concernée.
Donc le Brexit, c'est la fin d'un cinquième de la City,
c'est la fin d'une partie, avec après ce qui n'est pas mesurable par définition aujourd'hui, c'est les effets d'entraînement, c'est-à-dire qu'en clair, si vous avez une partie d'activité qui se relocalise sur le continent européen, ça peut avoir un effet d'attraction en termes de sur les places financières. La question de la taille critique, de la masse critique est un point qui est important, qui joue beaucoup.
Alors peut-être une première réaction d'Olivier Pastré, qui, je le rappelle, est avec nous par téléphone. Pour vous, le Brexit, c'est la fin de la City, c'est le début de la fin, ou au contraire, vous avez une vision un peu plus, mesurée, comme Alain Piton?
Non, j'ai pas du tout une vision mesurée, parce que le problème du Brexit dépasse la City. On va parler de la City ce soir, mais en gros, ça englobe toute l'économie britannique. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui voulaient s'implanter en Angleterre, d'entreprises japonaises, chinoises, américaines, et qui vont se reposer la question. Donc, l'enjeu pour Paris va bien au-delà de la place financière. C'est un point important parce que ça veut dire des dizaines et des dizaines de milliers d'emplois pour Paris et la région parisienne. Après, sur le plan strictement financier, oui, je serais assez d'accord avec le fait qu'il faut être mesuré. Toute la City ne va pas se rapatrier ni à Paris, ni à Francfort, ni en Irlande. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'institutions financières qui réfléchissent à leur réorganisation en ce moment, et c'est le moment où il faut que Paris réagisse et produise une image positive, un message positif pour essayer d'attirer le maximum de salariés, d'investissements, d'emplois, enfin.
Alors c'est précisément la mission de Paris Europlace avec vous, Alain Piton. Vous voulez réagir?
Oui, je vous le confirme. Peut-être juste un point sur la question de l'enjeu. C'est effectivement un enjeu en termes d'emploi et de revenus financiers qui doivent revenir et prioritairement sur la place de Paris par rapport aux autres places concurrentes en Europe. Je crois que derrière ça aussi, ce qui est important, c'est une question aussi de bassin de financement pour l'économie européenne. Ça, c'est un point qui est important. C'est presque une question de souveraineté. C'est-à-dire qu'en clair, il faut aussi que du coup l'économie européenne puisse être financée. Et ça, c'est un point qui est important pour nous. Alors, Alors pour répondre après à votre question sur la mobilisation, ça je vous le confirme, elle est forte. Avec un point d'ailleurs, et vous avez eu raison de le souligner, sur l'engagement des politiques, je ne vous cache pas que c'est quelque chose qui était un peu nouveau pour nous ces dernières années, par rapport à ces dernières années.
Ouais, le lobbying n'a pas été qu'économique. Il a été, alors il y a eu, voilà, j'ai cité Anne Hidalgo, il y a aussi Valérie Pécresse qui s'est fortement engagée, donc à droite et à gauche.
Absolument. Nous avons d'ailleurs, comme l'a dit Gérard Mestrallet, le président de Paris en place, c'était une forme d'union sacrée pour le secteur financier, avec aussi quelque chose qui était une première pour nous, le Premier ministre Manuel Valls, on en parle beaucoup aujourd'hui, qui était présent aux rencontres financières de Paris en place le 6 juillet pour montrer cet engagement. Et là encore, l'idée c'était vraiment de faire de Paris une place financière au service des entreprises et pas simplement une place, comme l'est la City, une place globale.
Alors, avant d'en venir à vos arguments, peut-être une réaction là-dessus, Olivier Pastré, justement, sur cet engagement des politiques, c'est important.
Et non seulement c'est important, mais là je suis en désaccord avec ce que vient de dire Alain Petit, que je respecte par ailleurs infiniment. Sur le fond, les politiques qui vont être, ou en tout cas qui briguent la présidence de la République, ne parlent pas de ça. Or, ça devrait être un sujet, c'est un sujet majeur. Paris, c'est une part importante de la France, et l'avenir de la place financière, c'est un élément essentiel. Or, j'ai jamais vu dans le, ou alors peut-être que j'ai été un mauvais lecteur, mais j'ai pas vu dans ce qui a été déclaré par les candidats à la présidentielle de déclaration en faveur de la place financière.
Alors, on va évidemment venir à ce contexte, hein, ce Brexit qui est déclenché en pleine campagne électorale française, à quelques semaines du premier tour, c'est évidemment important. Mais Alain Piton, pour en venir aux arguments que vous développez, qu'est-ce que vous dites à ces financiers qui cherchent à se délocaliser, à trouver le meilleur endroit? C'est quoi les points forts de la place de Paris?
Alors, il y en a beaucoup. On essaye de les résumer peut-être en trois mots. Le premier, ce sont les clients. Le deuxième, ce sont les talents. Et le troisième, c'est l'environnement. Peut-être pour rapidement développer, le premier point, ce qu'on dit, et c'est attesté par les uns et les autres, c'est que Paris est une ville globale.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Une ville globale, c'est-à-dire une ville très internationale, avec beaucoup de grosses entreprises. Par définition, c'est un point qui pour elle est très important d'avoir des services financiers performants et actifs auprès d'elle. Et ça, c'est clairement un atout. Il suffit de regarder la défense. De ce point de vue-là, juste aussi un élément à noter. Paris intramuros, c'est 2 millions d'habitants. Francfort, c'est un petit peu moins d'un million d'habitants. Je crois que c'est même pas 800 000 habitants. Donc ça, c'est le premier point. C'est Paris avec une ville avec les entreprises. Et je le répète pour nous, la finance est au service des entreprises. Le deuxième point, ce sont les talents. Et là-dessus, force est de reconnaître, là aussi, que l'industrie financière française, ça fonctionne. Certains ont coutume de dire que les...
Exemple, alors, parce que je pense que gens qui nous écoutent connaissent pas l'industrie française de la finance.
Vous avez parfaitement raison. Trois domaines d'expertise majeurs, tout ce qui est banque d'investissement, tout ce qui est l'assurance. Banque d'investissement, c'est évidemment les quatre grandes banques françaises. L'assurance, bon, tout le monde connaît AXA. Et un secteur dont on ne parle pas souvent, et là, la France est leader en Europe, elle est leader devant l'Allemagne, c'est ce qu'on appelle la gestion d'actifs. Amundi, pour ne pas la citer, c'est la numéro 4 au plan mondial. Et l'industrie française de la gestion d'actifs, c'est 3600 milliards d'euros gérés en France.
Alors,
et ça,
client,
c'est important pour l'économie française.
Environnement. Et environnement, c'est quoi? C'est par exemple tous ces logements, tous ces bureaux qui sont disponibles, 300 000 logements, 300 000 mètres carrés qui sont disponibles tout de suite. C'est de ça dont vous parlez, par exemple?
C'est absolument ça. C'est aussi, soyons clairs, l'image générale que donne Paris à l'extérieur, à l'international. C'est plutôt une ville où il fait bon vivre. Là encore, vous me permettrez de faire la comparaison par rapport à Francfort. Et c'est aussi des points qui sont importants et qu'on est en train de découvrir de plus en plus finement. C'est tout ce qui est innovation. Paris, c'est plus de 1000 fintech. C'est aussi la force en recherche et en finance. Et j'ajouterai un point qui est aussi un atout, y compris par rapport, par exemple, à Luxembourg, qui est aussi une place financière. C'est un régulateur qui est performant, qui est engagé aussi dans cette bataille de la compétitivité et de l'attractivité.
Alors, Olivier Pastré, est-ce que vous êtes d'accord avec ces trois points forts, client, talent, environnement, ou est-ce que vous voyez plutôt des points faibles qui pourraient être défavorables à Paris dans cette compétition pour récupérer des parts à la City?
Non, mais attendez, malheureusement, dans les points faibles, on est très bon aussi, parce que on a une fiscalité qui est quand même pas très favorable à l'attraction des entreprises. On a une fiscalité.
Vous parlez de l'impôt sur les sociétés, 28% en 2017?
Oui, enfin, l'ensemble des dispositifs sur les salaires, il y a plein de dispositifs fiscaux qui n'attirent pas les investissements étrangers. En plus, on change la fiscalité tous les 5 ans. Donc ça complique un peu l'exercice. Donc soyons modestes, il y a des points que les investisseurs, encore une fois, moi je pense pas seulement aux Anglais, pas seulement à la City, je pense au reste du monde. Où est-ce qu'on va investir demain en Europe? Logique, les atouts de la place financière de Paris ont été évoqués, les atouts de la France, ils sont extraordinairement nombreux. Je veux dire, en termes de démographie, on a une vitalité que les Allemands n'ont pas. En matière de productivité, on est meilleur que les Allemands. En matière de richesse de chaque individu en France, on est deux fois au-dessus de ce que sont les Allemands. Donc, il faut surtout pas faire de franco-pessimisme. Au contraire, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut se bagarrer pour que les politiques s'en mêlent, au sens où c'est un combat politique, au-delà du combat économique. Et on a plein d'atouts à faire valoir, qu'il faut faire valoir.
Alors, avant de faire réagir Alain Piton à ce que vous venez de nous dire, Olivier Pastret, il y a eu quelque chose qui a été perçu comme un coup dur pour les lobbyistes qui remonte à il y a quelques semaines, en février, la présidente d'un fonds à hauteur de 60 milliards de dollars, Ardian, c'est une Française, a déclaré que les Français avaient moins l'esprit financier que Londres. Alors, un, est-ce que c'est vrai? Deux, qu'est-ce que ça veut dire? Ou peut-être dans l'autre sens?
Non, ils sont... Attendez, des débiles, il y en a partout. Il y en a chez les économistes, il y en a aussi chez les financiers.
Là-dessus, Alain Piton est d'accord avec vous.
Oui, forcément.
Je vais vous citer un contre-exemple que vous avez évoqué. HSBC, qui est à ma connaissance pas une banque française, a décidé de basculer sur Paris un certain nombre d'emplois. Ça prouve bien que on a un potentiel, que les grandes institutions, et entre HSBC et... le fonds dont vous venez de me parler, franchement, il n'y a quand même pas photo. L'un est une des grandes banques à l'échelle mondiale. L'autre est un fonds d'investissement. Donc, il y aura sûrement des gens qui iront à Francfort, des gens qui iront en Irlande.
Voilà, mais il n'y a pas un défaut d'esprit financier en France. Alain Piton, sur ces points faibles, par exemple en termes de fiscalité, sur aussi le droit du travail, l'instabilité fiscale, qu'est-ce que vous répondez? Parce que c'est vrai que c'est des choses qu'on entend souvent.
Écoutez, il faut pas se voiler la face. Olivier a raison sur l'instabilité. Je vais même aller plus loin. Il dit tous les 5 ans, c'est même actuellement tous les ans, avec des dispositifs qui ont été modifiés d'ailleurs même pas au bout d'une année. Donc là, il y a un vrai sujet là-dessus. Et au passage, et ça rejoint ce que disait Olivier tout à l'heure, c'est là où on attend un engagement du futur président de la République.
Alors je crois qu'Emmanuel Macron s'est un peu engagé en termes de stabilité fiscale. Il en a fait un argument de campagne.
Lui, alors l'autre candidat qui est François Fillon l'a fait également. Et je crois comprendre que d'une manière générale, les politiques commencent à comprendre que c'est un sujet en soi. Vous me permettrez peut-être d'ajouter quand même un élément par rapport à nos points faibles. Je ne vais pas les nier, le coût du travail est également un sujet, mais si vous prenez le droit du travail, et je peux vous dire que nous avons fait des études très précises, la rigidité du droit allemand, elle est au moins aussi forte que celle du droit français. Et l'autre élément, je ne voudrais pas revenir sur les débats de la loi El Khomri, mais clairement, il y a eu des avancées ces derniers temps. Les investisseurs commencent à le comprendre. Ce qui est vrai, c'est que quand vous avez un déficit d'image, par définition, faut faire un vrai travail et long travail de conviction pour arriver à redresser la barre. Mais je peux dire que dans la réalité, les choses commencent à être vues.
Alors, un mot quand même de cette campagne électorale française. Olivier Pastret, justement, je voulais vous demander si c'est Marine Le Pen qui est la présidente. On sait qu'elle veut une sortie de l'euro. J'imagine que ça remettrait évidemment tout en cause.
Non, mais attendez. Oui, c'est un scénario impossible. Donc, je veux bien qu'on...
C'est pas ce que disent tous les politologues aujourd'hui.
Non, mais attendez. Les politologues se sont trompés continuellement depuis 3 ans. Donc, si Marine Le Pen était nommée présidente de la République, de toute façon... tout l'univers économique de la France serait bouleversé. Et ce dont on parle ce soir serait marginal, parce qu'il y aurait des problèmes beaucoup plus graves. C'est pas l'hypothèse centrale. L'hypothèse centrale, c'est que ça soit Fillon, Macron, peu importe, des gens à peu près normaux qui soient élus, il faut se bagarrer, parce que la bagarre sur la place de Paris et sur le Brexit, c'est aujourd'hui. Oui. Et là, je m'adresse à vos auditeurs en dehors de France, et vous avez la chance d'en avoir beaucoup. Pitié, regardez la France. Si vous voulez investir en Europe, regardez la France. Regardez la France en priorité. Juste un tout petit point. En matière bancaire, on a 4 banques parmi les 10 premières banques mondiales en France, et la seule banque qui est comparable en Allemagne, Deutsche Bank, a d'immenses problèmes. Il faut comparer Et après, il faut que les politiques se bagarrent.
Et Olivier Pastret, parmi les concurrents de Paris dans cette compétition, si on peut parler ainsi, donc je l'ai cité en introduction, il y a Dublin, il y a Francfort, il y a Luxembourg, on parle aussi de Varsovie. Pour vous, laquelle de ces villes a le plus de points forts?
Non, mais il y a aussi Tijuana, enfin je veux dire. Je plaisante.
Tijuana qui n'est pas dans l'Union européenne. Hein, donc, ce sera peut-être
momentanément qui ne l'est pas. Non, mais je veux dire, Varsovie, je veux bien qu'on... Encore une fois, c'est comme...
Sur Francfort, par exemple, siège de la BCE, voilà, la Banque Centrale Européenne, là, il y a un match, non?
Il y a un vrai match entre Paris et Francfort. Bon, voilà, Francfort a des avantages absolument incontestables. Son système bancaire est extrêmement fragile, son attractivité en termes de mode de vie est quand même tout à fait relative.
Enfin, donc vous rejoignez.
Vous êtes déjà allé à Francfort. Franchement, au mois de mars, c'est quand même pas très marrant.
Oui, mais alors, est-ce que les financiers réagissent vraiment comme ça? Je sais pas. Ils regardent peut-être d'autres critères.
Bien sûr, mais non, parce que pour décider une implantation, il faut que ces cadres, il faut attirer les cadres. Et pour attirer les cadres, il faut un mode de vie. Donc, il faut pas du tout. Je vais prendre une faiblesse de la France. CDG Express, simplement. Le passage de Roissy à Paris en matière de transport en commun. C'est un cataclysme aujourd'hui. Si on l'améliore pas, on sera pas attractif.
Oui, effectivement, voilà, les aéroports font régulièrement partie des points faibles de la France. Je voudrais redonner juste la parole à Alain Piton. Donc par rapport à Francfort, par exemple, qu'est-ce que vous répondez? Alors vous nous avez déjà dit tout à l'heure effectivement que Paris était plus agréable à vivre, mais c'est la capitale financière de l'Allemagne, c'est le siège de la BCE. Est-ce que ça, ce sont pas des concurrences qui sont sérieuses?
Alors. Francfort est incontestablement un concurrent sérieux. Juste deux bémols, si vous permettez. En Allemagne, l'activité financière, elle est aussi à Munich, en gestion d'actifs. Elle est probablement aussi dans d'autres villes, sur d'autres aspects. Donc ça, c'est un point qui est important.
Donc l'avantage de Paris, c'est que c'est centralisé, la France?
D'une certaine manière, oui, on retrouve l'avantage du centralisme. Les fintech, elles sont à Berlin. Elles ne sont pas à Francfort. Et le deuxième argument, alors je vais peut-être faire une formule un peu facile. On nous évoque parfois effectivement le sujet de la BCE. Vous savez, quand vous vous installez, quand vous êtes banquier ou dans le secteur financier, vous n'avez pas forcément envie de vous installer auprès de votre gendarme, vous vous installez auprès de vos clients. Et là encore, les clients, ils sont à Paris, ils ne sont pas à Francfort pour ce qui est des banquiers allemands.
Olivier Pastret, un dernier mot peut-être sur Dublin qui accueille le siège de grandes sociétés. Alors on ne les cite plus, hein, Facebook, Google, LinkedIn, ça parle anglais, c'est pas loin de Londres, c'est le même type de cadre légal, quasi identique. Là aussi, c'est une grosse concurrence.
Oui, cadre légal, oui, mais pas fiscal. Dublin attire par sa fiscalité, et ça, d'une manière ou d'une autre, ça va être amené à disparaître, ou alors l'Europe n'existera plus. Moi, mon hypothèse, c'est que l'Europe va continuer à exister, qu'elle va se remporter, qu'il va y avoir une convergence fiscale, et que de ce point de vue, l'avantage comparatif de Dublin va diminuer. Donc c'est un sujet aujourd'hui, et je peux comprendre que les entreprises réfléchissent à l'aspect fiscal, hein, qui est quand même toujours important, mais demain, ça sera un avantage comparatif déclinant.
Alors, il nous reste plus qu'une minute, donc une réponse très courte de chacun de vous deux. À partir de quand est-ce qu'on verra les premiers effets, ou peut-être les voit-on déjà, Olivier Piton?
Alain Piton, oui. Les premiers effets, c'est il y en a déjà eu un HSBC. Je pense qu'après, il y aurait pas mal de décisions courant l'été. Et j'insiste à nouveau, la force de Paris, c'est cet écosystème profond, puissant, dynamique.
Et donc, Olivier Pastret et pas Alain Pastret, pour vous, les premiers, les premiers effets, c'est quand?
C'est quand les politiques se bougent. Très franchement, tout est en place. Il y a beaucoup d'améliorations qui ont été faites pour rendre Paris plus attractif. Maintenant, il faut que les politiques, vous n'avez pas échappé qu'il y a une élection présidentielle.
Donc ça peut être très très vite, dans quelques semaines beaucoup plus longtemps, si je vous comprends bien. Merci beaucoup Olivier Pastret, économiste, professeur à Paris 8, Alain Piton, secrétaire général de Paris Europlace. Merci à Valentin Vaner, à Florence Ponce. Si vous vous intéressez au sujet et voulez aller plus loin, je vous conseille de consulter le grand reportage de Marine de la Moissonnière, je vais y arriver, sur RFI.fr. Il s'intitule « Emploi du Brexit, les villes en compétition ». À demain.
Le Prix Théâtre.